Il est 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, toutes les cathédrales de France tournées vers Notre-Dame, 48 heures exactement après l'incendie sur l'île de la Cité. Les cloches de l'Hexagone se sont mises à sonner avant une nouvelle cérémonie demain devant la mairie de Paris.
À la une également, la mort au Pérou de l'ancien président Alan Garcia, impliqué dans un scandale de corruption. Il s'est suicidé au moment où les policiers allaient l'arrêter.
Et puis le football et le PSG qui va devoir encore attendre son titre de champion. Les Parisiens se sont inclinés ce soir 3-2 sur le terrain de Nantes.
Le journal en français facile.
En français facile.
48 heures après l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, l'émotion est toujours très vive en France, à l'image de ces cloches, celles de toutes les cathédrales de l'Hexagone qui se sont mises à sonner ce soir à 18h50.
Oui, 18h50, l'heure du départ du feu lundi soir. La conférence des évêques de France l'avait annoncé un peu plus tôt en signe de solidarité avec le diocèse de Paris. Demain, une autre cérémonie sera également organisée dans la capitale. Et cette fois, à l'initiative de la municipalité, elle aura lieu devant l'hôtel de ville. En attendant, l'enquête sur les causes de l'incendie se poursuit. L'inventaire des destructions continue également pour avoir une idée précise de ce qui a été détruit. Et dès lundi soir, heureusement, beaucoup d'œuvres avaient pu être mises à l'abri. C'est ce qu'explique le porte-parole des pompiers de Paris, Gabriel Plus.
Le dégagement des œuvres a commencé le 15 avril, en même temps que l'attaque. Simultanément aux reconnaissances, des équipes, environ 100 pompiers, ont été prédisposés pour évacuer ces œuvres, et notamment celles qui figuraient au niveau du trésor, de la salle du trésor. L'ensemble des œuvres de la salle du trésor ont été évacuées. Il nous reste à évacuer celles qui restent sur les chapelles attenantes tout autour de la cathédrale. Ces actions d'évacuation des œuvres présentent forcément un risque. Le risque, il est calculé. Le risque, il est évalué comme celui qui a été pris d'engager mes camarades au niveau des beffrois nord pour protéger ces beffrois, éviter l'effondrement de la structure. Dans la phase d'attaque, celle qui concernait les pompiers, les 9 heures d'attaque, les jets des lances qui ont été établis étaient là pour éteindre l'incendie du toit. On a fait en sorte que ces jets ne soient pas aussi puissants pour détruire ces vitraux. Et donc, les vitraux n'ont pas été abîmés par l'eau.
Le porte-parole des pompiers de Paris, Gabriel Plus, au micro RFI d'Olivier Sherman. Par ailleurs, la question de la reconstruction de Notre-Dame a été largement évoquée aujourd'hui au cours du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a d'ailleurs fait part des premières mesures prises par l'exécutif. Parmi elles, un concours international d'architectes pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame détruite lundi.
Et on part en Turquie à présent, plus de 2 semaines après les élections municipales du 31 mars dernier. Le Conseil électoral a enfin reconnu la victoire du candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu.
Ce dernier l'avait emporté avec un faible écart devant son rival, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. Mais le camp du pouvoir affirme que des irrégularités ont entaché le scrutin. Il réclame désormais son annulation. À Istanbul, les précisions d'Anne Lauer.
Après 17 jours d'attente et de recomptage, les Stambouliotes connaissent enfin le nom de leur nouveau maire. Ekrem İmamoğlu, candidat de l'opposition, l'emporte par 13 729 voix d'avance dans une mégapole de plus de 16 millions d'habitants. Il entre officiellement en fonction, mais la bataille n'est pas pour autant finie. Comme le voulait le président Recep Tayyip Erdogan, son parti, l'AKP, a demandé cette semaine l'annulation du vote et la tenue d'un nouveau scrutin. Les 11 juges du Haut Conseil électoral, une institution officiellement indépendante, vont devoir décider si des événements ont pu influencer le résultat du vote, selon les termes vagues de la loi électorale turque. Depuis le lendemain de l'élection, le parti au pouvoir dénonce des erreurs et des tricheries. Son candidat, l'ancien Premier ministre Binali Yıldırım, estime que la victoire lui a été volée. De son côté, l'opposition accuse le président Erdogan d'être prêt à tout pour conserver Istanbul. Le Haut Conseil électoral devrait annoncer sa décision d'ici quelques jours. S'il donne raison à l'AKP, un nouveau scrutin sera organisé le 2 juin. Anne-Laure, Istanbul, RFI.
Au Pérou, l'ancien président Alan Garcia est mort ce mercredi. Il s'est suicidé à son domicile de Lima.
Oui, au moment où il allait être arrêté par la police dans le cadre d'une enquête sur le scandale de corruption Odebrecht, une affaire de blanchiment d'argent présumé, comprendre de dissimulation d'argent acquis de manière illégale. En novembre, Alan Garcia avait demandé l'asile en Uruguay, se disant persécuté par le pouvoir en place. Peu avant, il avait reçu le titre d'homme politique le plus impopulaire du Pérou. Son portrait par Emeline Vin.
Alan Garcia ne voulait pas qu'on puisse écrire sur sa tombe. Il fut assez stupide pour faire la même erreur deux fois. Toutefois, ses deux présidences, entre 85 et 90, puis entre 2006 et 2011, ont toutes les deux été entachées de soupçons de corruption. Son premier mandat, pourtant, il commence sous les meilleurs auspices. À 36 ans, surnommé le JFK péruvien, il devient le plus jeune président de l'histoire de son pays. Rien ne semble résister à son éloquence, à son physique. Après des études à Lima, Madrid et Paris, il prend la tête de son parti de centre-gauche, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine. Mais sa présidence est un désastre. Inflation à quatre chiffres, montée en puissance des guérillas, exclusion des groupes indigènes des décisions concernant leur territoire. En 1992, accusé de corruption, il s'exile en Europe. Il revient 9 ans plus tard, à la fin du délai de prescription. Réélu en 2006, il se réconcilie avec les institutions financières, renforce les liens avec les États-Unis, mais n'est pas reconduit dans ses fonctions. L'année dernière, il est à nouveau rattrapé par la justice. Comme 3 autres anciens présidents péruviens, il est poursuivi pour blanchiment d'argent dans le cadre du tentaculaire scandale Odebrecht. Alors qu'il allait être arrêté, Alan Garcia s'est suicidé. Il avait 69 ans.
L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la réponse de Cuba aux États-Unis. La Havane rejette énergiquement les mesures de Washington contre les entreprises étrangères.
Et c'est ce que fait savoir le ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, qui dénonce sur Twitter une attaque au droit international et à la souveraineté de son pays. L'explication, c'est cette décision des États-Unis qui autorise donc les poursuites contre des entreprises étrangères qui utilisent à Cuba des biens confisqués à des Américains après la révolution de 1959. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il s'appuie sur une disposition datant de 1996, un texte qu'aucun président n'avait jusqu'à maintenant appliqué, justement pour ne pas froisser les alliés des États-Unis. C'est donc un virage de la politique cubaine de Washington. Écoutez les explications de Mike Pompeo.
On voit très bien que le régime cubain accroît la répression de son peuple et continue d'exporter sa politique dans la région parce que c'est comme ça que réfléchissent les dictatures. Elles pensent que jouer l'apaisement, c'est faire preuve de faiblesse. Le régime continue de priver son peuple des libertés les plus fondamentales, la liberté de parole, de réunion, d'association et la liberté de la presse. D'après les ONG, plus de 2800 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire à Cuba en 2018. L'attitude du régime ébranle la sécurité et la stabilité des pays de la région, ce qui menace directement les intérêts des États-Unis. Le régime cubain exporte depuis des années ses stratégies d'intimidation, de répression, de violence au Venezuela, par exemple, à travers un soutien direct au régime de Nicolas Maduro. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, ce que Cuba exporte le plus, ce ne sont pas des cigares ou du rhum, c'est l'oppression. La politique de détente avec le régime cubain a échoué. Faire ami-ami avec les dictateurs cubains laissera toujours une marque indélébile dans les annales de notre grande nation.
Les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
En bref, le football et le PSG qui va encore devoir attendre avant d'être sacré champion de France de Ligue 1.
Oui, les Parisiens auraient pu remporter le titre dès ce soir, mais ils ont perdu à Nantes 3-2 en match en retard de la 28e journée. Le PSG reste, cela dit, en tête du classement. Il ne peut plus être rejoint par ses concurrents. Et puis toujours en football, il y a 2 matchs de Ligue des Champions à l'affiche ce soir, Porto-Liverpool. C'est Liverpool qui mène 1-0 à la 47e minute. Manchester City mène en revanche 3-2 face à Tottenham. Les vainqueurs rejoindront le FC Barcelone et Ajax Amsterdam en demi-finale. Et puis un dernier mot avant de refermer ce journal pour signaler la disparition d'Aziz Chouaki. Le dramaturge et écrivain algérien est décédé brutalement d'un arrêt cardiaque à l'âge de 67 ans. Il était notamment l'auteur de l'Étoile d'Alger, des Oranges ou d'Esperanza, qui a pour thème le drame des migrants clandestins. Nos pensées vont tout particulièrement ce soir à son épouse Yasmine Chouaki, notre consoeur, et qui présente en sol majeur sur RFI.